13 Passions, une émission de Roger Bouichou, présentée par Denis Arcas et Roger Bouichou, sur Radio Marseillette 101.3.
Tous nos auditeurs, le troisième volet consacré aux élections fédérales, au comité directeur de la Fédération française de rugby à 13. Je vous rappelle que nous avions eu déjà André Jandac, puis Albert, et là on va attaquer avec Luc Lescure qui va nous présenter.
Non, voilà, c'est pas Lescure.
Je savais que j'allais faire l'erreur. Non, c'était voir si Denis suivait, voir si tout marchait bien. Voilà.
J'essaye de suivre.
Allez, donc. Monsieur Lacoste, bonsoir.
Bonsoir, monsieur Lacoste.
Je disais que nous allons attaquer le troisième et dernier volet des élections au comité directeur de la Fédération française de rugby à 13. Pour vous interroger notre ami Denis Arcas et moi-même, nous allons vous torturer, vous allez voir. N'ayez crainte. Poser les premières questions à Denis Arcas. Denis, c'est à toi.
Eh bien, bonjour, monsieur Lacoste.
Bonjour, Denis.
La première question est toute simple. Hein, c'est d'habitude c'est Roger qui la pose, et aujourd'hui il ne veut pas la poser. On va vous demander simplement en quelques mots de faire une présentation rapide. Oui, simplement pour nous avons une heure cinq à peu près d'émission. Donc en même temps c'est long, mais c'est court aussi. Donc il faut en dire un maximum dans peu de temps. Donc Monsieur Lacoste, vous avez la parole pour faire une petite présentation.
Merci. Merci à tous d'être là. Merci à vos auditeurs également. Rapidement, je vais me présenter. Donc, Luc Lacoste, j'ai 54 ans. Je suis bordelais d'origine, Bordeaux, où j'ai passé toute mon enfance. J'ai fait toutes mes études primaires et secondaires à Bordeaux et je les ai terminées en passant 4 années magnifiques en Angleterre, à Londres, où mon père avait été à l'époque muté. Après mes études, après mon baccalauréat, je suis allé faire mes études à Paris, puis mon service militaire ensuite à Bruxelles. Et en rentrant, je suis rentré dans une société à Toulouse, où j'ai fait une longue partie de ma carrière avant de monter à Paris et revendre cette société en 2008. Qui était devenu le numéro 2 français de son marché et le numéro 4 en Europe. J'ai vendu cette société en 2008 et puis je suis par la suite devenu investisseur dans différentes PME, TPE, fonds d'investissement, fonds de fonds divers et variés. Mon parcours sportif est avant tout basé sur le fait que je suis un amoureux du sport et un amoureux de tous les sports. J'ai pratiqué dans mon enfance beaucoup le football. J'ai pratiqué également le tennis, que je pratique toujours. J'ai 54 ans, donc je vais un peu moins vite. Et mon parcours sportif est également passé par une période où j'ai eu la chance de devenir actionnaire, vice-président et président quelques mois d'un club de rugby à 15, l'USAP à Perpignan. Et j'ai quitté l'USAP en 2017. J'interviens encore sur certaines conférences à Paris pour expliquer les liens qu'il peut y avoir entre l'entreprise et le monde du sport. Voilà en quelques mots la personne que je suis.
Alors Luc Lacoste, qu'est-ce qui vous a poussé à vous diriger vers le rugby à 13?
Oh, écoutez, c'est assez simple en fait. Aussi bizarre que ça puisse paraître, pour un amoureux du sport comme moi, de tous les sports, j'ai découvert le rugby à 13 en 2014, lorsque j'étais vice-président et actionnaire de l'USAP, en allant voir très régulièrement des matchs des Dragons dans un stade Gilbert Brutus qui se trouvait à 500 mètres à peine du stade d'Aimé Giral. Et la première fois que j'ai vu un match des Dragons, je me souviendrai toujours, j'ai fait « Waouh !» Parce qu'effectivement, ce sport a quelque chose de magique. Et puis, je me suis attaché à regarder de plus en plus le rugby à 13, et c'est vrai que je suis devenu amoureux de ce sport. Et il se trouve qu'en 2018, et plus particulièrement en 2019, des gens, assez nombreux d'ailleurs, et assez répartis sur le territoire, les gens du monde du 13 ont pris attache auprès de moi pour que je leur fasse un petit audit de la situation, parce qu'ils étaient conscients du fait que, malgré tout, ce sport était en train de péricliter petit à petit, qu'il s'enfonçait petit à petit, et que sa survivance n'était pas assurée pour l'avenir. Et donc j'ai regardé de plus près, et puis vous savez, quand on me donne mon avis, en règle générale, je le donne. Et j'avoue que le regard que j'ai eu était un peu critique sur différents aspects de la gestion de ce sport. Et ils m'ont bien eu, puisque à la fin de mon audit, je leur donnais quelques recommandations, et ils m'ont dit, vous savez, monsieur Lacoste, peut-être que le mieux, ça serait que vous portiez un projet. Alors au début, j'avais dit non. Et puis, j'ai vu des gens tellement merveilleux, des gens tellement passionnés, parce que, vous savez, pour continuer à se battre, ben, faut être passionné. Et effectivement, ces gens absolument passionnés m'ont demandé de les aider. Et c'est la raison de mon engagement. J'ai du temps, je suis disponible. Et c'est la raison de mon engagement. Parce que ce sport mérite indéniablement un autre retentissement. Ce sport est juste fabuleux. Et je pense qu'il peut retrouver une place au milieu du sport français. Et c'est tout l'engagement, le dynamisme et la volonté que j'ai pour les quatre années à venir, avec bien évidemment l'ensemble des membres de mon équipe.
Bien, alors nous allons vous interroger sur, nous avons choisi quatre ou cinq sujets qui nous semblent importants, hein, les finances fédérales, la communication, l'expansion du mouvement 13iste, avec la formation, l'extension vers d'autres territoires, le haut niveau, les équipes de France, les pôles, etc. Et puis, si nous avons le temps, les compétitions élites franco-françaises, voilà. Ça, c'est des points sur lesquels on va revenir en détail. Je crois que vous avez souhaité que M. Balou, un de vos colistiers anciens international de rugby à 13, nous rejoigne tout à l'heure. Donc ça, Roger s'en occupera dans un moment. Mais alors, avant de passer à ces points en détail, est-ce que vous pourriez nous résumer en quelques mots la philosophie globale de votre projet, de votre programme? Je sais que c'est peut-être difficile, mais...
Non. Alors, effectivement, le constat d'abord, parce qu'il faut toujours partir d'un constat. Le constat, c'est que petit à petit, contrairement à ce qu'on pourrait penser ou essayer de nous faire croire, le rugby à 13 se meurt. Et il se meurt pourquoi? Parce que nous avons d'abord, et c'est l'essentiel, une perte du nombre de licenciés. Et donc toute notre action, toute notre philosophie des quatre années à venir sera tournée vers cet objectif, un objectif visant à faire en sorte de réaugmenter le nombre de licenciés. C'est notre objectif numéro un, et c'est celui qui parcourra toute notre action pendant les quatre années à venir. Cet objectif numéro un, je l'ai appelé « remettre du sang dans les veines ». Parce qu'il est nécessaire de retrouver des acteurs sur la scène. Vous savez, au théâtre, on dit souvent que lorsqu'il n'y a plus d'acteurs sur la scène, on tire le rideau, on se retourne, on ferme le théâtre, puis on va dîner. Mais le théâtre est fermé. C'est ce qu'il risquerait de se passer si nous ne changeons pas radicalement de méthode dans la gestion de ce sport. Donc notre premier objectif, c'est de retrouver un nombre de licenciés en hausse. Ça va pas être simple, notamment because la crise sanitaire actuelle, mais c'est possible. Et nous avons identifié beaucoup de pistes dans notre programme pour essayer de fidéliser les licenciés actuels et d'aller à la conquête de nouveaux licenciés. La principale, c'est de ne pas perdre de licenciés. Et c'est la raison pour laquelle nous voulons notamment marquer un effort conséquent sur tout ce qui concerne les pratiques aménagées, c'est-à-dire le rugby à 9 et toutes les pratiques aménagées. Le rugby flag, le rugby en salle, bref, toutes les pratiques aménagées. Pourquoi? Mais parce que parfois les clubs n'ont même pas assez de joueurs pour jouer à 13. Et pour autant, il ne faut pas que le club ferme. Il faut les conserver. Et pour les conserver, il faut aussi développer les pratiques aménagées. Idem concernant un engagement très fort, et nous créerons une cellule spécifique dédiée au développement du rugby féminin. Le rugby féminin, et il est beaucoup plus facile de jouer à 13 qu'à 15. Vous savez, sur les 1900 clubs qui constituent le rugby à 15, 20% ont une section féminine. Au rugby à 13, on atteint difficilement les 8%. Ça n'est pas normal. C'est un sport beaucoup plus adapté au rugby féminin que le rugby à 15. Donc nous mettrons un accent tout particulier sur le rugby féminin. Troisième, quatrième mesure, la reconquête des milieux scolaires et universitaires. Nous avons laissé tomber les écoles, les collèges, les lycées. Il faut absolument y retourner. Ces milieux, ce sont la courroie d'entraînement vers la création de nouveaux clubs. C'est là qu'on va chercher. Vous savez, dans les entreprises, on dit où sont nos clients potentiels. Mais nos clients potentiels, ils sont à l'école. On ne va pas les trouver dans la rue comme ça. On va les trouver à l'école. Donc on aura un axe tout particulier sur la reconquête des milieux scolaires et universitaires. Alors, bien évidemment, tout ça doit s'accompagner d'autres mesures, notamment le fait de, vous avez compris que je voulais qu'on stabilise les licenciés actuels et qu'on aille à la conquête de nouveaux licenciés. Nous mettrons donc en place ce que l'on a appelé une licence promotion, avec une réduction de prix très forte, voire la gratuité, pour la première licence pour les féminines et les jeunes. Et c'est tout à fait logique, puisque nous voulons développer le rugby féminin et nous voulons accroître nos nouveaux licenciés, rajeunir nos licenciés. Donc on aura une réduction de la promotion et une promotion sur nos licences. Ensuite, je veux retrouver le rugby à 13 partout. C'est valable également pour conquérir le monde de l'entreprise, en favorisant dans l'entreprise la pratique notamment du rugby à 9 et des pratiques aménagées. C'est possible. Les entreprises intègrent de plus en plus d'événements au sein de leur entreprise. Et le sport est une manière de recréer de la cohésion. Je travaille notamment actuellement avec, nous travaillons avec différentes entreprises qui sont spécialisées dans le domaine pour essayer de réinsérer le 13 dans le milieu de l'entreprise. Nous avons aussi une très forte mesure que nous voulons absolument remettre en œuvre, c'est redonner aux comités et aux ligues des prérogatives, dont la collecte des licences. Mais voyons, ce centralisme permanent au sein de la fédération n'a aucun sens. Ce sont les comités, ce sont les ligues qui font le rugby à 13, qui sont sur leur territoire. Et donc c'est à travers des comités et des ligues, je parle bien d'autonomie, je ne parle pas d'indépendance, mais c'est bien au travers des comités et des ligues que l'on pourra également se permettre d'accroître le nombre de licenciés. Et c'est une fois qu'on aura fait ça, c'est une fois qu'on aura réussi à retrouver un nombre de licenciés en hausse, qu'alors il sera beaucoup plus facile également de trouver des sponsors licences. Vous avez entendu dire que le sponsor licence actuel allait vraisemblablement mettre fin à son contrat. Mais au grand Dieu, quand on voit ne serait-ce que le premier point que reçoit un licencié lorsque il se licencie, c'est une carte qui ressemble à rien. Comment voulez-vous qu'un sponsor puisse devenir sponsor licence quand on n'a même pas de quoi être fier de sa propre licence? Et puis nous aurons une dernière mesure qui est une mesure visant à renforcer et redonner une âme et du sens à l'action des bénévoles qui font un travail remarquable, mais qui sont là aussi en nombre décroissant. Et il faut surtout valoriser leurs fonctions. Et ça, nous aurons une action très forte là-dessus. Ça, c'est le premier objectif. Le deuxième objectif, c'est de soutenir les clubs. Et encore plus maintenant, avec la crise sanitaire. Pourquoi le soutien aux clubs ? Mais parce que ce sont les clubs qui font les licenciés. C'est pas la fédération. C'est les clubs qui font les licenciés. Et comme je le dis souvent, n'oublions pas une chose. Ce sont les clubs, les patrons. Donc il faut d'abord leur redonner la parole. Jour d'aujourd'hui, lorsque vous avez une assemblée générale, vous en avez deux par an. Oh ben, c'est pas vraiment donner la parole au club que de faire deux assemblées générales par an. Non, non, il faut leur redonner la parole, et notamment avec le vote électronique. Nous mettrons en place des représentants fédéraux qui iront au contact des dirigeants afin de comprendre leurs problèmes, de voir parfois les solutions géniales qu'ils mettent en œuvre. Et une fois qu'on aura toutes ces données, on pourra également faire partager les bonnes pratiques à chacun. Je suis souvent avec des clubs qui me disent, ben, monsieur Lacoste, on a tel et tel problème. Et en fait, les clubs ont tous les mêmes problèmes. Mais ils les gèrent tous dans leur petit coin. Alors que parfois, le club de Nantes a trouvé une solution à un problème que se pose le club de Lézignan. Mais comme ils ne dialoguent jamais ensemble, et que finalement il n'y a pas d'informations sur les bonnes pratiques, il est indispensable que les clubs puissent communiquer entre eux, et c'est le rôle de la fédération. Fédération veut dire fédérer, hein. Donc c'est le rôle de la fédération. Nous voulons aussi simplifier les calendriers et co-construire les calendriers avec les différents clubs. Encore une fois, parce que ce sont les clubs qui connaissent leur territoire. C'est pas la fédération. Au jour d'aujourd'hui, les calendriers descendent comme ça de la fédération sans consultation des clubs. Ça n'est pas logique. Imaginez, vous êtes un club de Lille et votre derby, vous le vivez le même jour que la grande braderie parce que la fédération a décidé que votre derby se passerait tel jour. Ben, comme par hasard, les gens, ils sont à la grande braderie, ils ne sont pas au stade pour voir le match. Donc en fait, il faut reconsidérer complètement la relation avec les clubs. Et nous avons bien d'autres mesures.
Oui, on va. Monsieur Lacoste, je peux vous interrompre. Par rapport au nombre de licenciés, puisque vous avez dit que ce serait le point transversal de tout votre programme, il y a l'horizon 25 000. Est-ce à dire que c'est un objectif pour la fin de votre mandat ou c'est un horizon à plus long terme?
Non, nous avons d'ailleurs écrit à l'ensemble des présidents, nous communiquons beaucoup avec l'ensemble des présidents au travers d'une lettre que nous avons appelée Perspective Info, qui leur est adressée chaque semaine. Et sur le sujet des 25 000 licenciés, c'est un objectif que l'on s'est donné sur une période de 8 ans, sur deux mandats, en l'occurrence. Bien évidemment, si on peut aller plus vite, on ira plus vite, hein. Mais c'est un objectif clair que l'on se fixe au minimum sur deux mandats. La crise sanitaire actuelle, ne venant vraisemblablement pas favoriser la remontée du nombre de licenciés facilement, vous l'avez certainement vu, l'ensemble des fédérations souffrent. L'ensemble des fédérations est en train plutôt de perdre des licenciés. Vous n'en avez qu'une qui a des licenciés qui est en augmentation, c'est l'équitation, qui se retrouve avec plus 11%. Mais c'est un cas particulier, l'ensemble des fédérations souffrent là-dessus. Donc c'est la raison pour laquelle l'appui au club et les politiques de fidélisation que nous voulons mettre en œuvre sont indispensables pour réussir ce challenge.
Alors on va attaquer les finances fédérales, on va parler là-dessus.
Denis ?
Oui.
Avant d'attaquer le côté finance, je vous propose de passer à nos financeurs.
D'accord. À nos parrains.
Merci. Oui, c'est
on se retrouve tout de suite.
Merci.
C'est indispensable.
Le rugby à 13 sur Radio Marseillette vous est présenté par...
Une poissonnerie à Carcassonne, Sabine et Thierry Banquet vous proposent une grande variété de poissons frais et ses plateaux de fruits de mer à emporter. Fraîcheur et qualité au rendez-vous. 110 avenue du Général Leclerc, 04 68 25 43 85.
Issu de 7 générations de menuisiers dans l'Aude, sur Carcassonne et Villegagnac, l'ASARL Menuiserie Tiquet et Fils vous propose une réalisation parfaite de qualité pour vos portes, fenêtres, claustrats, armoires et blocs de rangement. Aménagement divers et cuisine, multi-travaux spécifiques, de la conception à la pose. SARL Tiquet et Fils, menuisier aménageur, avenue du Lauragais, 11 600 Villegagnac, 04 68 77 14 08 et info@tiquet.fr ou site internet www.tiquet.fr.
Oui, en compagnie de Monsieur Luc Lacoste, dirige la liste 13 ensemble, je crois.
Non, Perspective 13. Ah, voilà. Perspective 13.
Perspective 13, voilà, parce que excusez-moi, on se mélange, voilà, Perspective 13.
Il n'y a pas que moi, Denis, ça va.
Oui, voilà. Et donc, voilà. Alors, donc, nous retrouvons Monsieur Lacoste. Alors, nous allons vous parler des finances fédérales. Alors, en termes de, bon, c'est vrai que bon, on dit que c'est une phrase éculée que l'argent c'est le nerf de la guerre, mais c'est une réalité. Hein, pas d'argent, malheureusement, on peut pas faire grand chose. Alors, en termes d'évolution du budget fédéral, qu'est-ce que vous prévoyez sur la durée de votre mandat? Mais également, peut-être sur les deux premiers exercices, qui vont être quand même deux exercices, si vous êtes élu, de démarrage de votre mandature.
Alors, plusieurs choses. D'abord, un constat, comme d'habitude. Les finances actuelles de la Fédération, et notamment sur ses revenus, sont quasi stables depuis 4 ans. Les revenus n'ont absolument pas augmenté. Pourquoi? Eh bien, c'est assez simple. Il n'y a pas de produit et il n'y a pas de force de vente. Vous savez, dans une entreprise, mais pas que dans une entreprise, quand vous n'avez pas de produit à vendre et qu'en plus vous n'avez pas de force de vente, bah, par définition, il ne se passe pas grand-chose. Donc, nous avons prévu et nous prévoyons, et c'est un de nos 5 objectifs, effectivement un objectif qui sera de communiquer et d'accroître les revenus. Pour ce faire, nous créerons en permanence des événements. Et le premier d'entre eux sera l'événement lors de la finale du championnat. Vous savez, l'an dernier, la finale du championnat s'est tenue à Albi, dans un stade où il y avait 450 à 500 spectateurs. Je pense que c'est une faute. Je pense que c'est très grave. Et alors, effectivement, on va à Albi, j'ai rien contre Albi, je connais très bien cette ville et je suis fier d'avoir aménagé pour partie. Mais on y va surtout parce que le stade est gratuit. Résultat des courses, on ne crée aucun événement. Nous, c'est tout le contraire. Ce que l'on veut, c'est créer des événements, et notamment en passant par l'événement lors de la finale. Ce projet de finale, c'est, comme le disait Boileau, qu'en un lieu, qu'en un jour, un seul fait accompli tiennent jusqu'à la fin le théâtre rempli. Et nous créerons un événement final avec toutes les finales fédérales, élite 2, élite 1, un même jour, des animations, une soirée événementielle. Bref, il faut absolument créer l'événement pour pouvoir retrouver des sponsors, pour pouvoir retrouver une télé, pour pouvoir enfin donner une visibilité à ce sport. C'est une première chose. La deuxième chose, c'est que nous créerons ce que l'on appelle l'événement dominical. Je veux trouver un naming du championnat élite 1, voire élite 2. Mais vous comprenez bien qu'il n'est juste pas possible de trouver un sponsor et quelqu'un qui vient faire le naming de ces championnats si vous ne créez pas l'événement. Donc, nous ferons en sorte que les matchs du dimanche, les matchs d'élite 1 et d'élite 2, soient des matchs beaucoup plus structurés qu'ils ne le sont actuellement. Avec, par exemple, la rencontre des deux écoles de rugby, des réunions d'anciens joueurs, des collations pour les jeunes, des ci, des ça. Bref, il faut normer petit à petit nos événements. Et c'est possible. La seule chose, c'est que pour trouver un sponsor, il faut lui donner un produit qui ressemble à un produit. Nous créerons également ce que l'on a appelé le Club 13, qui est un club d'entreprise à Paris, essentiellement, avec des cotisations, pardonnez-moi, mais plutôt parisiennes, qui sera délocalisable dans les grandes villes, et où nous regroupons des chefs d'entreprise avec des experts qui font une conférence sur certains thèmes, comme la fiscalité, les ressources humaines, la digitalisation, le retournement d'entreprise, devant un parterre de chefs d'entreprise qui participent au club et qui, au moment où le club se réunit, seront en capacité également de voir des matchs des Dragons, j'espère bientôt du Toulouse Olympique, et autres matchs de NRL par exemple. Donc nous créons ce club 13 à Paris, ce qui est possible parce qu'à Paris, vous avez un environnement économique qui vous permet de regrouper beaucoup plus d'entreprises en un seul lieu. Nous créerons également ce que j'appelle une task force sponsoring, c'est-à-dire une force, une équipe qui sera là uniquement pour vendre,
vendre, vendre. Il y aura une équipe interne, mais nous ferons appel à des ressources externes avec ce que l'on appelle des success fees, c'est-à-dire qui sont rémunérés au pourcentage de ce qu'ils ramènent comme chiffre d'affaires. Et je veux, et nous voulons absolument créer un triptyque autour de la fédération, des dragons catalans et du TO, du Toulouse Olympique. Et pourquoi donc? Comment se fait-il qu'au jour d'aujourd'hui, la fédération ne s'entende pas avec les deux clubs majeurs qui certes ont un statut particulier et jouent en Super League ou en Championship, j'espère les deux en Super League l'année prochaine. Mais parce que ce sont eux qui ont l'audience. Je peux très bien, et nous pouvons très bien trouver un gros sponsor qui est prêt à namer le championnat de France, mais qui veut absolument avoir une audience télévisuelle beaucoup plus forte. Alors à ce moment-là, et nous en avons discuté déjà avec Bernard Gouache et Bernard Sarrazin, je veux absolument qu'on crée ensemble un produit commun pour partir à l'assaut des sponsors. Et si effectivement, moi, fédération, j'arrive à lever des sponsors, mais grâce aussi aux Dragons et aux Théo, mais nous partagerons les revenus. Nous devons passer un contrat, comme on dit, win-win, avec le Théo et les Dragons catalans. Enfin, je veux absolument qu'on parle du 13 toujours et partout. Alors, honnêtement, je vous l'avoue, même sur votre antenne, et pardonnez-moi, c'est plus facile depuis Paris que depuis Carcassonne. Mais c'est possible, et vous avez vu que sur ma liste, nous avons des personnes et certains de mes soutiens issus des médias. Nous avons notamment Gilles Esté, qui est un homme qui connaît absolument tous les médias parisiens et qui rentre partout dans les médias parisiens. Donc, à l'arrivée des courses, grâce à toutes ces opérations, il est possible, effectivement, de créer des nouveaux revenus. Et c'est indispensable. Aujourd'hui, la fédération se gère comment? Par la limitation des charges et la baisse des charges. Bref, on gère la misère. Il faut arrêter de gérer la misère. Il faut maintenant aller absolument à l'accroissement des revenus. Et c'est plus facile, effectivement, lorsque vous créez des produits que lorsque vous n'en avez juste pas. Donc c'est l'essentiel de des mesures que l'on prendra pour accroître les revenus.
Monsieur Lacoste, de précision, est-ce que vous avez quand même prévu en termes d'évolution justement de ce budget et de ces grandes masses, hein, le sponsor, puisqu'aujourd'hui, enfin, aujourd'hui, les ressources de fédération proviennent en grande masse de trois sources, les subventions des partenaires publics, les clubs et le partenariat privé. Donc, bon, on a bien compris là que vous souhaitiez augmenter ce partenariat privé, ce sponsoring. Est-ce que vous êtes fixé là-dessus un objectif pour votre mandat, en termes de pourcentage par rapport à la totalité de votre club, pardon, de votre budget? Est-ce que vous avez prévu quelque chose pour les clubs là-dessus, une diminution, je ne sais pas, de la participation des clubs en contrepartie? Une dernière question là-dessus, on dit beaucoup que vous avez un réseau, monsieur Lacoste. Est-ce que d'ores et déjà vous avez des engagements de partenaires dans cette période difficile que vous évoquiez tout à l'heure, d'éventuels partenaires, des engagements clair et précis, financier, que vous pouvez assurer au club qui éventuellement pourrait voter pour vous?
Alors, plusieurs petites choses pour répondre à votre question. Premièrement, vous avez raison, les trois grands ensembles des revenus sont les clubs, le sponsoring et les subventions publiques. Il faut savoir qu'au jour d'aujourd'hui, dans le budget de la fédération, plus de 50% des ressources de la fédération viennent des clubs. On s'approche plus de 60% d'ailleurs que de 50%. Donc au jour d'aujourd'hui, ce sont les clubs qui font vivre la fédération. Et les clubs sont la vache à lait de la fédération. Ça ne peut pas durer, parce que quand on enrichit la fédération grâce aux clubs, mais finalement on appauvrit les clubs. Donc il faut inverser cette tendance. Et on a un deuxième point, c'est que vous avez environ 450 ou 500 000 euros de subventions publiques. qui ont légèrement baissé d'ailleurs l'année dernière, c'est être donc beaucoup trop dépendant des subventions publiques, et on peut penser qu'effectivement, au jour d'aujourd'hui, les subventions pourraient baisser. Il est donc essentiel de partir à l'assaut des sponsors. Pour répondre à la fin de votre question, comme je dis souvent, un sponsor ne vient qu'à partir du moment où vous avez quelque chose à lui proposer. Jamais vous ne m'avez entendu dire, tiens, je vais toquer à la porte de quelqu'un, puis je vais lui dire, tiens, est-ce que vous voulez bien sponsoriser? Ça n'a aucun sens. Ça ne peut fonctionner qu'à partir du moment où notre étape visant à dire, il faut créer des produits, alors nous pouvons aller à l'assaut. Alors oui, effectivement, j'ai un réseau. Vous l'avez vu peut-être sur nos réseaux sociaux, j'ai des grandes personnes du monde de l'entreprise qui m'ont soutenu et me soutiennent. Notamment, vous avez membre exécutif de la BPI, Patrice Béguet, mais je pourrais en citer bien d'autres. Mais Patrice Béguet, c'est le directeur de la communication de la BPI, Banque publique d'investissement. Et la Banque publique d'investissement gère notamment un réseau qui s'appelle le réseau Excellence, qui a en son sein plus de 5000 entreprises qui sont financées en partie par la BPI. C'est un réseau extraordinaire. Et bien évidemment, celui-ci m'est entièrement ouvert. Ça ne veut pas dire que si j'ai rien à leur proposer, les gens ne viendront pas. Donc il ne faut pas inverser la tendance. Et donc, je ne veux pas faire comme ferait parfois peut-être un politique. Je ne veux pas promettre. Ce que nous nous sommes donné comme objectif, c'est effectivement de multiplier par deux le budget de la fédération sur le mandat. Donc nous voulons passer d'un budget de 2,5 millions à environ un budget qui approche les 5 millions. C'est un objectif qu'il faut se fixer, parce que sans ça, le rugby à 13 n'évoluera pas. Donc, effectivement, nous mettons un accent particulier sur le sponsoring pour compenser des subventions publiques qui vont aller en diminuant, et je veux absolument créer du sponsoring complémentaire pour pouvoir donner des marges de manœuvre aux clubs. Attention, là encore, les clubs sont aujourd'hui la vache à lait, mais je veux qu'on passe d'un régime de taxation et de sanctions, un régime de bonus. Vous voyez par exemple sur la première mesure qui est l'augmentation du nombre de licenciés. Nous signerons avec les clubs un contrat d'objectif en termes de nombre de licenciés assorti de bonus, et notamment de bonus financiers. Je suis un club qui a 100 licenciés, eh bien on signera un contrat pour l'année suivante à 110, 120, 130, on le définira ensemble, et on donnera des bonus au club sur base d'engagement de club pour favoriser l'émergence du nombre de licenciés, pour favoriser l'émergence de toutes les mesures que nous voulons mettre en œuvre, non pas pour le club en tant que tel, mais pour le rugby à 13 dans son ensemble. Et c'est au travers de ces mesures-là qu'alors il est possible de reconstruire le 13.
Oui. Moi, je vous ai bien écouté.
Donc à l'arrivée des courses, si vous voulez, l'objectif c'est de passer de 2,5 millions à 5 millions en 4 ans.
D'accord.
Oui, moi
oui,
je voulais...
Roger, tu voulais poser une question?
Sur la première partie du programme de monsieur Lacoste, je retiens que les têtes de gondole de la Fédération Française de rugby à 13, excusez-moi le terme, mais bon, c'est les drones catalans et Toulouse Olympique. Mais en dessous, s'il n'y a pas de marchandises dessous, je vais parler du champion de France, qu'est-ce que ça va devenir? Parce que c'est beau, c'est vrai que on est conscient que les Dragons et Toulouse ce sont les portes à la peau du mouvement de l'IC. Mais en dessous, il va falloir quand même qu'il y ait quelque chose, un championnat qui intéresse les sportifs, et c'est ce qui, malheureusement, à l'heure actuelle, pénalise le rugby à 13.
Exactement. Exactement. Alors, dans la rubrique appui au club, nous avons une démarche. Vous avez vu que sur les sponsors et autres, nous voulons quand même mettre en avant et en valeur le championnat élite 1 tel qu'il existe au jour d'aujourd'hui. Mais nous voulons absolument investir sur les grandes villes. Vous savez, il y a environ 47 sports majeurs en France. les sports qui en sont sortis le mieux sont les sports qui ont investi les grandes villes. Et donc, nous mettrons un accent tout à fait particulier sur les clubs des grandes villes pour leur permettre d'émerger. Et vous savez, au jour d'aujourd'hui, le 13 ne s'est pas si éloigné que ça des grandes villes. Vous avez encore du 13, vous avez du 13 à Marseille, vous avez du 13 à Avignon, vous avez du 13 bien évidemment à Perpignan, vous avez du 13 à Montpellier, vous n'avez pas beaucoup de 13 à Bordeaux, mais c'est une terre d'exploitation extraordinaire avec une marque qui est les Girondins de Bordeaux et une équipe féminine remarquable. Vous avez du 13 qui s'est développé à Nantes. Toutes ces villes sont des villes dans lesquelles il faut s'investir. Et effectivement, nous voulons déployer des mesures particulières pour les clubs des grandes villes pour, dès que cela sera fait, réaliser un championnat élargi avec les grandes villes. Sans ça, effectivement, il sera toujours plus difficile d'intéresser les médias à simplement des clubs de, et pardonnez-moi pour les clubs, des clubs de petites villes ou de villes de taille moyenne. Donc, dans notre programme, nous avons une démarche tout à fait particulière sur les clubs des grandes villes. Et à ce moment-là, on adaptera le championnat en conséquence.
Mais pareil, ça veut dire, monsieur Lacoste,
vous savez, sur Paris, Roger, sur Paris, il y a quand même des clubs qui font un travail remarquable. Châtillon, Charenton, sont des clubs absolument merveilleux qui font un travail remarquable. Il faut les aider. C'est la base de notre développement sur Paris.
Donc, monsieur Lacoste, ça veut dire que même financièrement, vous pourriez aider les clubs qui existent dans ces grandes villes, comme Lyon, Toulon, etc., ou dans la région parisienne, ou même aider à la création sur certaines villes comme Bordeaux, Marseille, qui ont dépassé 13 listes. Financièrement, la fédération pourrait investir.
Mais bien évidemment, avec bien évidemment, par contre, un cahier des charges, des mesures à appliquer, et ce que l'on appelle des roadmaps ou des feuilles de route qui permettront à la fédération de vérifier que ce qui doit être fait pour créer un club est effectivement bien fait. D'ailleurs, moi, je suis toujours d'accord pour encourager à partir du moment où c'est dans un cadre. Et un cadre avec des objectifs et un chemin d'objectifs et un chemin de mesures qui doivent être vérifiés tous les 6 mois, tous les 3 mois, on le définira en fonction des projets de chaque grande ville. Mais il est indispensable de faire un effort particulier, et je sais que les clubs l'ont compris. Et ils savent très bien que c'est à partir des grandes villes qu'on tirera tout le rugby à 13 vers le haut.
Alors, Luc Lacoste, peut-on espérer, dans X années, avoir un championnat français professionnel qui puisse un jour être comparé à la Super League?
Je crois que si on ne l'espère pas, alors il faut en désespérer. Bien évidemment que mais petit à petit, chaque chose en son temps. Mais il est évident qu'il faudra que le rugby à 13 se professionnalise. C'est indispensable. Sinon, on restera un petit sport français et il faut absolument changer de braquet. Il faut changer de logiciel. Il faut changer de logiciel. Par contre, comme d'habitude, on ne va pas sur la Lune tant qu'on n'a pas commencé à bâtir le lanceur. Donc on va déjà solidifier, consolider les bases du 13 et commencer à édifier le lanceur. Quand on aura le lanceur, alors on mettra en place un championnat professionnel. Mais pour l'instant, ça n'est juste pas possible. Pour réaliser en gros un club professionnel, il faut minimum que ce club dispose d'un budget de 1 million, pas loin d'un million et demi, pour commencer à envisager la professionnalisation. Donc, ce million et demi, on ne va pas le trouver sous le sabot d'un cheval. On va le trouver là où il y a de la démographie, c'est-à-dire les grandes villes, et là où il y a des ressources financières liées à des acteurs économiques. On ne va pas créer un club professionnel à partir de subventions publiques. Donc, la seule façon de créer des clubs professionnels, c'est de se rapprocher des grandes villes. Et vous doutez bien que si on trouve 500 000 euros de budget dans une ville de taille moyenne, il est possible de trouver des budgets s'approchant de 1 million, 1 million et demi à Marseille, Lyon, Bordeaux, Nantes. Encore faut-il mettre en place un vrai projet de club et un vrai projet de développement club par club. La fédération n'a pas que à s'attacher à régler les problèmes de la fédération. Quand on parle des revenus, on parle des revenus de la fédération. Et moi, je parle des revenus de l'ensemble du rugby à 13. Donc, il faut absolument s'attacher à se rapprocher des grandes villes et à travailler autour des grandes villes. Mais c'est une lapalissade, hein, ce que je suis en train de dire. C'est quasiment une lapalissade. La démographie et le pouvoir économique, il est dans les grandes métropoles. Et vous le voyez bien, le Perpignan est une grande métropole, c'est la 35e ville de France, ou 34e ville de France, 130 000 habitants, et elle a réussi à avoir un club extraordinaire. Le deuxième club, il est où? Il est à Toulouse. Ah oui, c'est donc sur les grandes villes qu'on devra s'attacher pour ce championnat professionnel que j'espère et que j'appelle de mes voeux le plus rapidement possible, mais en ayant construit des bases, et des bases solides.
Et alors, Monsieur Lacoste, que dites-vous aux présidents des clubs des villes moyennes qui aujourd'hui font l'ossature quand même de ce championnat et qui, comme Carcassonne, on peut parler Villeneuve-sur-Lot, Saint-Gaudens, etc., on pourrait en citer d'autres, qui ont des budgets qui dépassent, qui sont pas loin du million d'euros, parfois à 700-800 000 euros, est-ce qu'on les abandonne? Est-ce que vous les abandonnerez? Ou elles devront jouer en des divisions inférieures, ou est-ce qu'elles devront se réorganiser, se regrouper par département pour trouver des ressources plus importantes?
Les abandonner, certainement pas. Ce serait contraire à l'objectif...
C'était une provocation.
Certainement pas. Ça serait contraire à l'objectif numéro 1 que nous nous sommes donné d'accroissement du nombre de licenciés. Non. Vous croyez que sur les 1900 clubs de rugby à 15 dans notre pays, il n'y en a que 30 qui forment le top 14 et le top 16, et la Pro D2 qui font le Pro... Voyons, soyons sérieux. Non, bien au contraire. Et des clubs... Alors, ils ne sont pas nombreux à avoir 800 000 euros de budget, hein, honnêtement. Mais, bien évidemment qu'on ne les abandonnera pas. Quand je dis qu'on aura un championnat élargi, oh là, et petit à petit, sereinement... après avoir effectivement validé tout ça avec les différents clubs, quand je parle avec le président de Carcassonne, quand je parle avec le président de Ligny, quand je parle avec le président de Lézignan, ils sont conscients du fait qu'ils auront besoin, et ils ont besoin d'un autre retentissement pour attirer les licenciés chez eux. Vous comprenez bien que lorsque l'on n'est pas télévisé, on a moins de licenciés. Lorsqu'on a une équipe de France qui n'est tenue qu'aujourd'hui par deux fournisseurs, le Théo et les Dragons, on a une équipe de France qui ne fonctionne pas. Et quand on a une équipe de France qui ne fonctionne pas, l'équipe de France, c'est le flagship du rugby à 13. Et donc, il faut absolument que l'équipe de France ait capacité à se nourrir de nouveaux fournisseurs, si je le prends comme tel, autre que simplement les Dragons et les Théo. Donc, il faut tout tirer vers le haut. Et ça... Les présidents de clubs, d'élite 1 et d'élite 2, l'ont parfaitement compris. Et ils savent qu'en allant à la rencontre des grandes villes, ça ne se fera pas en un jour, hein, Roger et Denis, mais ils savent qu'effectivement, c'est par là qu'on arrivera à tirer l'ensemble. Vous voyez par exemple le handball. C'était un sport de préau. Maintenant, le handball, il est dans toutes les grandes villes. Et le handball... 600 000 licenciés. Tous les clubs des villes de France qui jouent handball ne jouent pas le championnat de France. Hein. Ne jouent pas tout en haut de l'élite. Hein. Mais tout le monde a à gagner de la performance. C'est Tavares, le patron de Peugeot, qui dit « Seule la performance sauvegarde ». Et vous voulez que je vous dise? Il a raison. Seule l'ambition peut nous permettre de faire renaître le 13 en France. Sans ça... Mais comparons-nous aux autres sports. Arrêtons de ne faire que se regarder nous-mêmes. Ouvrons-nous. Pourquoi le 13 en est là où il est? Mais c'est parce qu'il est refermé sur lui-même. C'est parce qu'il ne regarde que lui-même. Voyons ce qui marche dans les autres fédérations. Voyons ce qui marche dans les autres clubs. Et essayons de l'adapter à notre sport. Calmement, lentement, sereinement, mais en se donnant des objectifs, en prenant des roadmaps, comme on dit, des chemins, pour essayer d'atteindre tous ces objectifs. Et ça passe par l'impérieuse nécessité de se rapprocher des grandes villes. Mais ça, vous voulez que je vous dise, c'est politiquement incorrect, ce que je dis, parce que je pourrais avoir des clubs de villes plus petites qui n'étaient pas d'accord avec ça, et finalement, au travers de mon parcours des routes de France, ben finalement, ça passe très bien parce que le monde du 13 l'a compris. Et je crois que le monde du 13 est prêt à un vrai changement.
Alors, vous avez évoqué l'équipe de France, donc ben, on va parler justement du haut niveau. Mmh. Dans cette équipe de France, alors j'ai retenu une phrase de votre programme qui vous dites il faut faire un constat honnête. Enfin, seuls les joueurs des Dragons, du Théo et quelques Français évoluant en Super League actuellement en Angleterre peuvent rivaliser dans le concert international. Bon, je trouve, moi, personnellement, je trouve que cette phrase est un peu dure pour un certain nombre de joueurs d'élite hein, que nous voyons chaque week-end. Alors, est-ce qu'il n'y a pas quand même... Mais compte tenu du nombre de joueurs, justement, ce que vous définissez là, ça représente que ce soit au Dragon, maintenant, et même au Théo, et même à, ça représente qu'un petit nombre. Donc, le rugby à 13 a besoin des joueurs d'élite. Est-ce qu'il n'y a pas des solutions aussi à rechercher pour que parmi les clubs d'élite, il y ait des joueurs qui soient, comme ça peut exister dans notre sport, semi-pro, financés par la fédération, ou qui leur permettent de monter de niveau?
Alors, vous avez raison. Deux points. Lorsque vous reprenez ma phrase, liée à la Coupe du Monde de 2021. Ça veut dire à brève échéance. C'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, ne nous trompons pas. Seuls ou quasiment seuls, les joueurs des Dragons, du Théo et quelques joueurs jouant en Super League peuvent rivaliser avec le très très haut niveau. Dire le contraire serait un peu se mentir. Et moi, je ne suis pas là pour qu'on se mente à nous-mêmes. Ça ne sert à rien. Bien évidemment, il y a des joueurs d'élite 1 qui parfois d'ailleurs rejoignent ces clubs pro et donc sont en capacité de jouer derrière. La seule chose, c'est que pour 2021, on a effectivement une vraie difficulté, c'est qu'on n'a que, j'allais dire, deux fournisseurs. Le Théo, les Dragons. Alors, c'est vrai que la fédération a quand même une capacité extraordinaire, elle ne s'entend pas avec ces deux fournisseurs essentiels. C'est comme quand vous êtes producteur de voitures et que vous ne vous entendez pas avec Bridgestone et Michelin qui sont vos fournisseurs de pneus. Ah ben, votre voiture, vous n'arrivez pas à la sortir. Donc la première des choses, c'est qu'il faut s'entendre avec quand même les Dragons et le Théo pour qu'ils acceptent de pouvoir fournir des joueurs. Je parle pour la Coupe du Monde 2021. Par la suite, bien évidemment, qu'il faut, et là encore, on partage le même air, il faut tout tirer vers le haut, en ce compris les clubs d'élite 1 pour qu'ils soient en capacité de jouer en équipe de France. Mais ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et pour pouvoir trouver des joueurs exceptionnels, eh ben, il faut avoir plus de licenciés. Il faut avoir plus de monde sur les terrains. Donc tout ça, c'est une période qui sera un peu longue, mais qu'il faut évidemment mettre en œuvre. Alors, il y a d'autres solutions. Hein. Au jour d'aujourd'hui, la fédération manque de peau. N'a quasiment plus de relations, est absente de la Fédération internationale. Elle a même perdu sa place à la Ligue Europe. On a été remplacé par l'Écosse. L'Écosse qui a moins de licenciés que la France. Mais on est quand même capable de perdre notre place à la Ligue Europe. Moi, vous voulez que je vous dise, pour assumer notre Coupe du Monde 2021, et pour redonner à l'équipe de France l'aura qu'elle n'aurait jamais dû perdre, je pense que la première des mesures, c'est de retrouver des relations saines avec les instances internationales. Et ces relations saines, elles sont indispensables pour pouvoir négocier des points de dérogation, pour pouvoir intégrer d'autres joueurs que simplement ceux des deux fournisseurs que sont le Théo et les Dragons. Parce que je voudrais abaisser la durée de présence dans un club français d'étrangers de 5 à 3 ans. Ça nous permettrait de récupérer à peu près 5 joueurs pour assumer la Coupe du Monde. Et puis je voudrais pouvoir intégrer des joueurs qui jouent actuellement en NRL et qui ont des ascendants ou une ascendance française. Et là aussi, on peut récupérer 4 à 5 joueurs selon nos études. Bref, on peut accroître la compétitivité de l'équipe de France à partir du moment où on s'entend avec tout le monde et pas qu'on s'engueule avec tout le monde. Bon. Pour ce qui est de l'élite 1, eh bien là aussi, c'est un process général de formation qui doit être mis en œuvre. Bon, ben c'est l'épaule, c'est la politique d'épaule, c'est le suivi après l'épaule, c'est l'adossement d'un club élite 1 avec une formation, et avec une formation aussi dans les clubs pro actuels. On en a beaucoup parlé avec Bernard Gouache et avec Bernard Sarrazin. Donc, je crois que c'est possible, mais ne croyons pas qu'au jour d'aujourd'hui, c'est le cas. Et c'est ça que je voudrais que le 13 assume. C'est que le 13 doit arrêter de considérer qu'il est dans de bonnes positions. Il doit faire sa propre autocritique. Et c'est parce qu'il acceptera de faire sa propre autocritique qu'alors on pourra avancer. Dire que les joueurs de club élite qui se battent, et honnêtement, effectivement, j'aurais pu rajouter, il y a quelques joueurs d'élite qui peuvent jouer en équipe de France. Est-ce qu'ils peuvent rivaliser pour autant avec les grandes nations? Je n'en suis pas certain. Jouer en équipe de France, oui. L'équipe de France, elle est dans le groupe B. Est-ce qu'elle va assumer quelque chose dans le groupe B? Mais moi, mon ambition, voyons, c'est pas qu'elle reste dans le groupe B. Notre ambition, celle qu'on doit avoir, c'est de retrouver son passé. C'est de revenir dans la cour des grands. C'est d'être dans les 5 premiers. Pour ça, nous devons accepter que nous aurons là aussi une autocritique à nous faire et une vraie reconsidération de notre manière de mener l'équipe de France. Et c'est possible. Mais il n'y a pas que l'équipe de France masculine. Hein. On a l'équipe de France féminine, que je veux absolument mettre dans le club France. Et bien évidemment, l'équipe de France fauteuil, et alors eux, ils sont juste brillantissimes. Alors, bien évidemment qu'ils feront partie du club France pour essayer de faire grimper tout ça.
Alors, vous avez évoqué l'épaule, hein, puisque dans le haut niveau, évidemment. Bon, d'abord, alors je voulais vous faire, donc il y a l'épaule existant, je voulais vous faire réagir aussi sur la création du centre qui a été décidé récemment sur dans le centre qui sera créé sur Alzone. Et ensuite, j'ai vu dans votre programme qu'éventuellement vous envisagez, alors sous une autre forme, c'est pas le terme exact que le terme d'épaule, mais éventuellement d'avoir des centres de formation du côté de Perpignan, Toulouse, enfin, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus là-dessus, sur l'ensemble de ces sujets?
Concernant Alzone, fondamentalement, nous ne pouvons pas nous opposer à un projet comme Alzone, qui, premièrement, n'oublions pas, a été voté par la majorité des clubs. Lorsque le 12 septembre, lors de l'Assemblée Générale, à peu près 60% des clubs ont voté pour la réalisation de ce projet. Moi, vous savez, je suis un démocrate. Et dans ce cadre-là, je ne remets pas en cause, et je ne veux pas remettre en cause, la parole des clubs. Les clubs ont parlé. On peut peut-être s'alarmer sur le fait que le taux de participation des clubs à l'Assemblée Générale était faible, environ de 40%. Donc ça veut dire que vous avez 60% de 40% des clubs qui ont voté favorablement. Les statuts disent que les membres présents, s'ils ont la majorité, ça passe. Bon, en fait, on a 60% de 40% des clubs qui ont dit oui. Mais ils ont dit oui. Bon. Alzone est un équipement vraisemblablement structurant. C'est bien pour le 13 d'avoir des infrastructures complémentaires. Le vrai sujet d'Alzone n'est pas un sujet de financement. Les collectivités locales abondent fortement les travaux, les investissements de travaux, ce qu'on appelle les investissements de première installation d'Alzone, à hauteur de 3,5 millions ou peut-être un peu plus. C'est très important. Les collectivités locales ont fait un effort conséquent pour permettre la réalisation de ce centre. La vraie difficulté de ce centre, c'est deux choses. Premièrement, comment va-t-il fonctionner dans l'avenir? Moi, ce que j'ai pu voir du dossier d'Alzone, c'est que l'exploitation du site, c'est-à-dire le fonctionnement du site, tel que d'ailleurs présenté, je suis surpris que beaucoup ne l'aient pas vu, lorsque vous regardez le budget prévisionnel, qui est d'ailleurs un budget prévisionnel assez limité, puisqu'il est fait quasiment que sur un an, généralement un bébé, comme on dit, hein, vous ne le faites pas sur un an. Vous voyez qu'effectivement, et pardonnez-moi d'être un tout petit peu technique, les free cash flow, comme on dit, c'est-à-dire la trésorerie dégagée par l'encaissement de l'emprunt, a priori, sur les finances du club. Moi, mon fédération, sur les finances de la fédération, ne fragilise pas les finances. C'est aussi et avant tout que nos auteurs puissent prendre ces décisions. Lorsque M. Palanque, dit-on, venant à 100 l'exécution, et je le demande à des morales, prochain comité directeur, quel qu'il trouve qu'il... Comme l'a fait, si vous ne vous représentez pas pour d'envisager et de laisser le directeur. Et puis deuxièmement, le faire. C'est un élément le faire. Mais pour l'urgence, elle est dans l'aide au club. Sinon, on va se lancer. De toute façon, va peser un instant. Si je devais dire la preuve, c'est avec la crise sanitaire, il va falloir se bouger que sur Alzone. Mais on fait un effort considérable parce que c'est un élément structurant. Oh. Oui, enfin, je pense qu'on n'est jamais à comparer. Je pense que c'est important. Mais Alzone ne doit pas être du rugby à 13. On est à Toulouse. Il faut les conserver. Donc que ce soit nécessaire. Oui, là j'ai quand même un peu de doute, etc. Là où il y a un terrain, une piscine. Non, soyons sérieux. Proximité. Et à mon avis, tel que je le vois calibré, c'est à regarder et travailler. En parallèle de ça, réussissent à faire la fédération. Se rapprocher et de formation de haut niveau puisse être en plus près possible de chez centre FA, une sorte pour la formation de... C'est à discussion. Vous savez, tout dit est fait selon deux grands axes. Alors on n'avancera pas. Vous imaginez, vous avez un comité qui se bat. Il faudra une ligue. On ne va pas voir la région. Il faut rebâtir. C'est pas énorme. C'est... Il y a beaucoup de monde qui est prêt à avoir d'ailleurs l'engouement par une vision non pas simple et de participer.
Allez-y. Oui, alors, avant la... je voulais vous parler... que compte tenu du système, mais qui est un scrutin de panache, aucune liste, alors je voulais vous demander... mais que vous n'avez pas la marche et le rapproche avec des représentants de la fédération gouvernable... un mode de scrutin peut-être plus simple que celui-là.
Une très bonne remarque. Nous ne sommes pas du tout sur un scrutin de liste. À un tour principal, dans ce que vous voulez, où vous retournez, cocher ce que vous voulez. Il y a trois listes, il devrait y avoir un peu, finalement, une fédération. Et vous retrouvez, mais de ne pas avoir de majorité. Ils sont travaillés. Prochement, deux fois, un des deux membres dira. Indispensable. Peut-être que je sois fédération. Change. Le jour du vote, ils choisissent une large majorité. Être si je souhaite être non. Pour avancer à ma offensive. Pour ça, il petit à petit les dossiers. On a maintenant de changer du monde. Le 12 décembre, j'ai différents présidents, majorité. Pas le cas. Au jour d'aujourd'hui, si je ne me présenterai pas à la présidence, c'est mener une action dans le petit bras. Je veux mener une action. J'ai besoin qu'on me fasse... Si on a envie de me faire club, alors, derrière...
Alors, M. Lacoste, s'arrêterait vous avez votre liste qui sont passées précédemment.
Denis, depuis longtemps, hein.
Pardon non, mais...
Ah, ben... Excusez auprès de Dominique Obama. Mais c'était très intéressant.
Il et était au courant.
Je pense qu'il doit vous connaître. Donc, oui. En tout cas, eh bien, je crois qu'on a fait le tour de Nice davantage de temps, mais bon.
Je voudrais juste dire un petit truc. Dominique Balou, rencontré et que je ne connaissais pas avant, sera, si nous sommes élus, secrétaire. Et voilà, je voulais souligner le fait que ma conscience, c'est juste un homme. Nous nous appelons Diff, regardez les choses. C'est un homme magnifique. Voilà, je voulais que. J'ai voulu. C'est un homme remarquable. Et vous l'entendez.
Merci, monsieur Lacoste.
Juste Denis, vous pourrez suivre le 13 Limoux sur Radio Marseillette.
Voilà, pour l'information, monsieur l'officiellement, les élections semaines, l'Assemblée générale et l'Assemblée générale sont reportées et le vote sur l'Assemblée générale se tient que des règles sanitaires. Le vote pour élire le comité de façon électronique. Une émission terminée.
Merci Luc avec de sa volonté. À mes auditeurs, j'espère que cette émission avec un objet des trois des listes.
S'il y a quelques petits problèmes en replay et celle-ci firme.
Tout à fait.
Les connaissances qui souhaitent les récoutes marseillais précédente cette semaine. Nicole, on te fait une grosse. Ah ben moi.
Voilà.
Allez, gros bisous à tous.
Gros bisous à tous. Et portez-vous bien et faites attention à vous. Au revoir.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao. Bonne soirée. Ciao.